Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Élie et Elios. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs et auditrices? Élie, tu veux bien commencer?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Élie. J'habite au Québec, à Montréal présentement. Puis, j'ai une maîtrise professionnelle en orthophonie de l'Université de Montréal. J'ai différentes occupations. Par exemple, je travaille pour l'association Bégaiement Communication. Je fais de la formation, de la sensibilisation au bégaiement, puis à la diversité de la parole de façon générale. Puis sinon, je suis impliquée dans plusieurs projets de recherche aussi, entre autres, tout ce qui a trait à l'équité, la diversité et l'inclusion en orthophonie. Puis c'est un peu pour ça qu'on vient vous parler aujourd'hui, plus spécifiquement par rapport à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Puis j'utilise le pronom « iel » avec des accords neutres.
Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Elios, c'est à toi de te présenter, si ça te va.
Oui, alors moi je m'appelle Elios, je suis étudiante en cinquième année en orthophonie au CFO de Nantes. J'espère être diplômée d'ici le mois de juin et devenir officiellement orthophoniste tout bientôt. Et là, je suis actuellement dans une période de stage jusqu'à la fin de l'année. En parallèle, je travaille sur mon mémoire sur le sujet de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres avec Élie. Et j'utilise le pronom « il » et les accords masculins.
Ok, parfait. Merci pour ta présentation aussi. Et oui, là, c'est bientôt la fin des études pour toi, donc bientôt orthophoniste, ça y est.
Oui, j'ai hâte.
Tu m'étonnes. Ok. Avant qu'on comprenne un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, j'aimerais bien qu'on sache déjà comment vous êtes arrivés en orthophonie. Elios, est-ce que tu veux commencer?
Oui, alors comment je suis arrivée en orthophonie, c'est une très bonne question. En fait, moi, je me suis toujours intéressée à la communication en général, aux interactions sociales avec les autres et le rôle que pouvait avoir le langage dans ces interactions sociales, de savoir comment la communication fonctionnait, comment on arrivait à pouvoir créer justement un rôle social avec les autres par rapport à cette communication. Et donc, comme je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, l'orthophonie est un peu venue s'introduire là-dedans. Surtout que j'avais vraiment besoin d'avoir un lien concret avec les autres, de comprendre, enfin de pouvoir être dans une interaction avec d'autres personnes et de savoir qu'est-ce qu'on pouvait quand il y avait un défaut de communication. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a emmenée dans l'orthophonie à l'époque. Mais je n'avais pas vraiment conscience de tout ce que l'orthophonie recouvrait à ce moment-là.
Ok. Et ouais, parce que c'est vrai que sur l'aspect peut-être juste communication, tu aurais pu partir dans un autre cursus, mais du coup, c'était le fait qu'il y ait l'interaction avec le patient, avec sa famille, son entourage, ses aidants, etc. C'est ce qui t'intéressait.
Oui, tout à fait. En fait, je voulais pas du tout rester dans quelque chose de théorique à l'époque. J'avais vraiment besoin d'être dans du concret et de me dire que ce qui m'interrogeait pouvait être utile avec l'autre.
D'accord, ok. Et je vois que tu dis à l'époque, est-ce que ça a changé depuis?
Oui, ça a un peu changé. Parce que j'ai découvert le fabuleux monde de la recherche,
génial.
Que je trouve vraiment essentiel et magnifique et superbe.
Ok, on en rediscutera après alors, parce que je pense que peut-être ça se rejoindra avec Élie. Et Ellie, tu veux bien nous dire, toi, comment tu es arrivée en orthophonie?
Oui, bien sûr. Donc, de mon côté, c'était vraiment par hasard que je suis arrivée, que je suis atterrie en orthophonie. Quand est venu le choix, le moment difficile de faire le choix de quel métier, quelle profession je voulais faire, j'avais vraiment aucune idée de où je voulais aller. Puis j'avais des intérêts vraiment multiples. J'étais comme juste intéressée par tout. Donc, je regardais les différents programmes que les universités offrait. Puis là, l'orthophonie m'a accrochée parce que je trouvais que c'était comme la façon de rester dans mon indécision, vu qu'on avait comme des cours d'anatomie, physiologie, linguistique, psychologie. Tu sais, il y a comme plein de. C'est ça, plein de.
De
L'orthophonie est comme au
domaine.
milieu de plein. C'est ça, de plein de domaines. Donc, je me suis dit, ah, oh, pourquoi pas? J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je suis embarquée. J'ai choisi l'orthophonie et je me suis laissée. Guidée et finalement, ça a été un bon choix pour moi. Quelques années plus tard, je peux le dire. Ouais.
Génial. Et là, tu as fini quand tes études d'ortho?
Ouais, fait que j'ai fini, dans le fond, cet été, l'été dernier, ma maîtrise professionnelle en orthophonie, qui est la maîtrise qui permet de pratiquer quand, si on le veut,
Ouais.
à condition au Québec de devenir membre de l'Ordre des orthophonistes et
Ah,
audiologistes.
oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ok, et donc toi, quand tu as fini les études, donc tu n'as pas adhéré à cet ordre, si j'ai bien compris, tu es partie après dans la recherche.
Suis partie dans la recherche. C'est ça. Ça, c'est une grosse question, un gros enjeu pour moi, adhérer ou pas à adhérer à l'ordre. Donc, j'aurais comme une réponse courte, une réponse longue à. Ou une explication courte, une explication longue par rapport à ça. Fait que l'explication courte, c'est comme Elia, j'ai découvert un intérêt pour la recherche vraiment très fort, puis je m'épanouis vraiment là-dedans. Et j'ai l'impression d'être comme aux premières loges de l'orthophonie demain. Puis ça me motive vraiment beaucoup, tu sais, de travailler à imaginer ça va être quoi les pratiques orthophoniques dans le futur.
Oui.
Donc, il y a ça. Donc, je poursuis présentement des études en recherche à l'Université de Montréal. Après ça, la réponse longue, ce serait que j'ai vu un obstacle d'accès à la profession au Québec, justement en lien avec le fait que je suis une personne trans. Ouais, parce que dans le fond, le problème, c'est que. Mais dans le fond, on a des ordres professionnels. Puis ça, c'est comme vraiment très bien. Ils sont là pour protéger le public. Leur mission est vraiment superbe. Mais ça vient aussi avec des contraintes pour les personnes qui sont orthophonistes et qui veulent adhérer à un ordre professionnel. Puis, présentement, ce qui se passe, c'est que il y a comme, selon le cadre juridique, donc dans tous les ordres professionnels, si on veut pratiquer une profession qui est réglementée, il faut absolument le faire sous son prénom légal. Donc, ça voudrait dire que faudrait que j'exerce la profession en nommant à tous mes patients, patientes, que je suis une personne trans, donc parce que moi, mon prénom légal n'est pas celui que j'utilise. Donc, vous allez voir un prénom qui n'est pas le mien partout sur tous les documents, ce qui est comme une option intolérable pour moi. Puis, j'avais pas envie de faire une transition légale à ce moment-ci pour différentes raisons, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux associés justement à une transition légale. Donc, moi, j'étais très à l'aise avec juste une transition, sociale et j'avais pas envie de faire, ce pas-là. Donc, c'est ça, je me retrouve devant genre trois choix, qui soit faire ma transition légale, même si j'en ai pas envie, soit. Ne pas faire ma transition légale, adhérer à l'ordre et exercer en disant à tout le monde, en expliquant à tout le monde ma situation, ce qui serait trop dommageable pour ma santé mentale, soit ne pas pratiquer la profession d'orthophoniste, qui est l'option que j'ai choisie présentement. Mais avec ça, je travaille avec mon ordre professionnel pour essayer de qu'on puisse permettre des aménagements justement au cadre juridique éventuellement, mais ça va être de l'ordre de quelques années probablement avant que je puisse exercer la profession. Mais on va essayer de mettre quelque chose en place pour que ce soit un peu plus comme, tu sais, il y a beaucoup d'universités présentement qui permettent justement d'avoir un prénom choisi et qui savent très bien gérer les identités des personnes qui en font partie. Donc, on va essayer de travailler à pouvoir faire ça aussi au niveau des ordres professionnels.
Et ouais, justement, j'allais te demander si en fait l'ordre avait pensé à changer la manière de faire, parce que peut-être que ça avait été réfléchi il y a longtemps et que la question s'était pas posée, mais
Enfin, là, tu vois, je pensais que d'autant plus au Québec, où on sait que quand même les choses avancent parfois un peu plus vite que nous sur ces sujets. Et tu vois, je pensais qu'en fait, c'était complètement possible, mais non, alors pas encore.
Non, c'est ça. Puis c'est comme plus haut que les autres professionnels, c'est vraiment au niveau du cadre juridique, donc des règles plus gouvernementales où il faut aller
Oui,
changer,
c'est ça.
des choses.
Donc, il faut pouvoir
Ouais.
avoir accès aux interlocuteurs. C'est ça qui est difficile, peut-être aussi.
Ouais, c'est ça qui est difficile. Donc, j'avais essayé moi-même d'accéder comme individu. Tu sais, j'ai fait, c'est ça, une plainte à un comité, déjà en tant qu'individu pour qui étudie la question, mais là, c'est vraiment les autres professionnels qui doivent pousser, mais au moins, je sens que j'ai le soutien de mon ordre. Il y a un
Ah.
comité qui est en train de se créer pour venir essayer de changer les choses, mais c'est ça, c'est des changements qui sont très, très lents. C'est
Il y a beaucoup
ce qu'on
d'inertie en
m'explique.
plus. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc,
Ok, d'accord. Mais tu vois, c'est super intéressant que tu abordes le sujet parce que j'aurais pas du tout pensé que du coup, en fait, ça pouvait restreindre ton accès à la profession. J'avais pas du tout envisagé ça, c'est fou.
Ouais, c'est quelque chose que je pense que les gens, effectivement, t'imaginaient pas. Puis moi-même, je pense en arrivant en orthophonie, je
Oui.
m'imaginais pas qu'un jour je ne pourrais pas pratiquer alors que j'avais toutes les connaissances et les compétences
Oui.
pour le faire. Puis j'ai l'impression de faire partie, c'est ça, des premières personnes qui poussent puis qui arrivent à cette situation-là, c'est qui finissent leurs études puis qui ont besoin de pratiquer, mais que cet enjeu-là pose problème. Puis on dirait, ça me faisait réfléchir justement à toute la question de pourquoi c'est si difficile, pourquoi je suis comme une des premières personnes qui arrive. Puis, tu sais, je travaille sur d'autres projets de recherche où justement je me rends compte de toutes les difficultés sur le plan de la santé mentale des personnes des communautés de LGBTQIA+, comme moi, où il y a tellement de détresse que je peux imaginer qu'on se rende pas, qu'on finisse pas des études. Puis l'orthophonie, c'est quand même des études universitaires, ça demande une maîtrise. Donc déjà, je suis comme fière de m'être rendue à avoir mon diplôme.
Oui.
Le chemin était long, il y a eu beaucoup d'obstacles en cours de route, mais là, j'arrive à, c'est ça, devant un obstacle ultime. Et j'espère que ça va se régler le plus vite possible.
Eh ben ouais, j'espère aussi, parce que c'est quand même assez dingue comme situation. Enfin, ouais, tu vois, j'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est fou. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'en fait, on pense pas à ça quand on n'y est pas confronté. Et d'autant plus que toi, tes sujets de recherche portent sur des situations des personnes LGBTQIA+, et où tu dois rencontrer d'autres problématiques aussi. Enfin, là aussi, tu es aux premières loges pour rencontrer ça aussi finalement dans tes recherches.
Oui, exactement. Je pense qu'on va pouvoir élaborer là-dessus, moi et Elias.
Ça, c'est chouette. Et donc, Elioz, comment tu t'es intéressée, toi, à la recherche? Est-ce que c'est par le biais du mémoire ou pas?
En fait, aux études d'orthophonie en France, en quatrième année ou en troisième année, selon les tiers, on est obligé de faire à un moment un stage de recherche, de sensibilisation à la recherche. Et donc moi, j'ai intégré un laboratoire de l'Université de Montréal en distanciel, laboratoire dans lequel est Ellie. C'est le laboratoire d'Ingrid, d'ailleurs, qui a participé à un épisode du podcast. Et donc, en fait, quand j'ai commencé ce stage, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient menés au sein de ce laboratoire, qui étaient des projets assez innovants. Et où j'ai compris que on pouvait vraiment amener des choses dans la recherche en orthophonie, qu'il y avait encore beaucoup de domaines à aller explorer et que ça pouvait avoir un impact sur la pratique professionnelle en elle-même directement derrière. Voilà.
Ouais,
Un
c'est
peu
hyper
comme ça.
intéressant. Et du coup, suite à ton stage recherche, tout de suite, tu t'es dit que tu allais faire un mémoire dans la même veine et après continuer la recherche?
Alors non. Non. Après mon stage recherche, j'ai un peu continué ma petite route. Et sauf que je suis restée en fait en contact avec le labo et avec. Et moi, je commençais à me questionner sur le sujet du mémoire de cinquième année, de ce que j'allais faire. Je m'interrogeais. Enfin, j'avais beaucoup de questionnements sur justement les normes qui sont très présentes dans la pratique en orthophonie, où il y a quand même peu d'inclusivité auprès des personnes de sexe LGBTQIA+. Donc je savais que je voulais traiter un sujet comme ça pour mon mémoire. Et en fait, je suis tombée sur le sujet des lits. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis un peu plus plongée dans la. Et c'est en travaillant avec Ellie depuis maintenant plus d'un an que mon avenir s'est un peu construit là-dessus, quoi. Mon envie de poursuivre dans le domaine de la recherche s'est fait au fur et à mesure, finalement.
Ok. Et comment t'envisages du coup la suite pour toi quand t'auras le diplôme?
Alors là, je me pose actuellement beaucoup de questions. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je crois que je vais pouvoir faire de la recherche, pratiquer aussi. Donc voilà, c'est encore des questionnements qui sont là. Rien n'est mis en place pour l'instant, mais idéalement, dans un avenir proche, j'aimerais bien
Oui.
pouvoir faire les deux.
Génial. Et alors, question juste logistique, est-ce que tu ferais de la recherche en France, du coup?
Justement, ça fait partie des grandes
Des
questions
questionnements.
auxquelles je ne sais pas encore répondre.
Ouais.
Mais en tout cas, je crois que idéalement, j'aimerais qu'on puisse continuer à travailler avec Ellie parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas du tout terminé ce qu'on a commencé là.
Génial. Ah bah, c'est des super projets en tout cas. C'est chouette de vous entendre là-dessus. Et bah justement, est-ce que vous voudriez bien nous dire un petit mot sur le sujet que vous souhaitiez aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast?
Oui, on peut certainement vous parler en quelques mots du sujet qu'on veut aborder avec vous. Donc, dans le fond, nous, on travaille sur un projet de recherche qui est le projet L'orthophonie pour tous. Puis présentement, on est dans une phase d'exploration des besoins par rapport à comment est-ce qu'on pourrait rendre la pratique orthophonique plus sensible à tout ce qui est toutes les questions de diversité sexuelle et de pluralité des genres. Donc, la façon dont on aborde cette question-là présentement, c'est à travers un sondage. On a choisi de faire un sondage parce qu'on se disait que c'était une façon d'ouvrir largement la conversation, d'aller rejoindre un maximum de personnes, puis de pouvoir, c'est ça, dès maintenant, commencer à penser et réfléchir collectivement à ces questions-là dans le domaine de l'orthophonie. Puis éventuellement, on va aller compléter tout ça avec d'autres méthodes aussi. On a plein d'idées pour le futur. Puis notre but ultime, ben, c'est de créer des ressources qui vont être pertinentes en fonction des besoins des orthophonistes pour vraiment venir les outiller puis pouvoir répondre à leurs besoins par rapport à la sensibilité de la pratique.
Génial. Elios, tu avais des choses à rajouter sur le sujet où tout a été dit par Ellie?
Une grande précision, je crois.
Parfait. Là, où est-ce que vous en êtes de ce sujet-là? Est-ce que c'est encore le moment de la passation du sondage ou est-ce que vous en êtes?
C'est encore le moment de la passation du sondage. Donc, on invite toute personne qui étudie ou travaille dans le domaine de l'orthophonie à aller y répondre. On va pouvoir mettre le lien en description de l'épisode, Sarah.
Oui, tout à fait, exactement, c'était prévu.
Excellent. Donc, on a déjà, je pense, 280 réponses la dernière fois que j'avais vérifié les deux ensemble, ce qui est pas mal, mais on en veut encore plus. Au départ, on avait pensé fermer, on prévoyait fermer le sondage, je pense, à la fin février, mais là, on se dit qu'on est capable, c'est ça, d'aller encore chercher plus de réponses. Donc, on va réévaluer mois par mois, est-ce qu'on a un bon niveau de satisfaction ou est-ce qu'on veut encore plus de réponses? Donc, pour l'instant, c'est encore ouvert. Donc, allez tout de suite répondre au sondage
Ok,
si
parce que là, je dis pour les auditeurs et auditrices, on enregistre, on est le 24 février, mais là, cet épisode devra sortir début mi-mars. Est-ce que pour vous, c'est encore jouable dans... Ouais, ok.
oui.
Ok, donc du coup, ouais, je le remettrai bien dans la description. Et pour les personnes qui écouteraient un peu plus tard, on est en 2023. Donc si vous l'écoutez peut-être en 2024, ça sera fermé. Voilà, donc si vous l'écoutez le jour de la sortie, allez vite, vite répondre au sondage. C'est important de pouvoir faire avancer ce sujet qui est super intéressant. Et alors, comment vous vous êtes mis en lien et mis d'accord pour aborder ce sujet justement?
Mais je peux peut-être raconter un petit peu l'histoire de comment je suis arrivée à étudier ce sujet-là, puis comment c'est ça, Elios a rejoint l'équipe éventuellement. De mon côté, c'était un choix qui était quand même très personnel d'aller venir, d'aller étudier ça, comme vous pouvez vous en douter. Et en même temps, il y avait comme une partie de hasard, on pourrait dire. Tu sais, je tâtais le terrain pour essayer de faire des choses qui m'intéressent en orthophonie, puis de, c'est ça, de rendre mes études plus intéressantes ou plus stimulantes, parce que on dirait que j'avais pendant mes études une espèce d'inconfort par rapport à la profession d'orthophoniste qui s'est développée, entre autres parce que la façon que je me l'explique, c'est que j'avais l'impression que l'orthophonie vient renforcer certaines normes sociales dans la façon dont elle est pratiquée, puis des normes qui viennent qui sont comme dommageables pour certains groupes de personnes, dont les communautés de SLGBTQIA+. Je le voyais aussi pour d'autres groupes. Par exemple, j'avais l'impression qu'on venait renforcer certaines normes par rapport à la parole. T'sais, on veut que la parole soit fluide, par exemple, au lieu de prendre une approche où on met plus en valeur toute la diversité des façons de parler. Même chose pour la communication. J'avais un certain malaise avec le fait de essayer de venir normaliser la communication de certaines personnes, par exemple les personnes autistes. Fait que tout ça me faisait comme réagir et je trouvais par rapport à la sexualité, par rapport au genre, qu'il y avait quand même beaucoup de biais qui est un petit peu partout dans la façon dont c'est enseigné et dans la pratique que je voyais en stage. Donc, c'est ça, j'avais un certain malaise, puis un moment donné où j'ai comme pratiquement pensé changer d'études, justement, changer de domaine, aller ailleurs. Mais là, je me disais, plus ça avançait, plus j'étais rendue loin, plus le changement
Tu dis non, j'ai pas fait tout ça
serait...
pour rien. Enfin, pour rien, entre guillemets,
Exactement.
quoi.
Exactement. Fait que je suis arrivée à comme ma dernière année d'études, puis j'étais comme, je peux pas abandonner maintenant. Voyons donc, je vais essayer de trouver une façon de, tu sais, que l'orthophonie redevienne cohérente pour moi.
Oui.
Donc, pour faire ça, c'est ça, je me suis dit, OK, quel sujet je n'ai pas encore abordé, mais que j'aimerais apprendre, sur quoi j'aimerais apprendre, qu'est-ce qui m'intéresserait? Puis là, j'avais pensé justement à les thérapies d'harmonisation de la voix et de la communication pour les personnes trans, pour les personnes comme moi. Peut-être que ça, on ne l'a pas encore vu en classe, mais j'aimerais en savoir plus là-dessus. Donc, j'avais approché Ingrid Bertocht, qui est la spécialiste en voix à notre école d'orthophonie pour travailler sur ces questions-là. Puis finalement, le sujet de recherche a vraiment grossi, donc c'est vraiment plus centré sur juste l'harmonisation de la voix et de la communication, donc plus juste sur les questions de féminiser, masculiniser, neutraliser la voix. C'est vraiment plus sur comment est-ce qu'on est sensible à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres dans la pratique, parce que je voyais justement en lisant qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur cette question-là plus large. Puis qu'il y avait, moi, je sentais qu'il y avait des besoins de par mon expérience personnelle. On a parti un projet de recherche là-dessus, moi, Ingrid et d'autres collaborateurs aussi. Et un jour, il y a Elias qui est venu cogner à la porte.
Toc, toc, je suis là.
Exactement. Oui, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je m'étais un peu questionnée sur les mêmes sujets dont Ellie a parlé.
Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à ça? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler pendant les études ou pas? D'orthophonie, pardon.
Alors non, ça manquait cruellement.
Oui.
Moi, je me suis questionnée de par mon vécu personnel, tout
Oui, c'est
simplement.
pas par
Et
les études que tu es arrivé
non,
par ce biais.
non, non, on ne parle pas du tout, enfin en tout cas pas dans le cursus que j'ai suivi à Nantes, de diversité sexuelle, de pluralité des genres. On aborde un petit peu le travail vocal avec les personnes trans, mais de manière vraiment très légère, si
Féminisation de la
possible.
voix, quoi.
Voilà, c'est
Oui.
ça. Et donc voilà, moi j'étais en questionnement de genre personnel, et donc en parallèle mes études qui se faisaient, je trouvais plus trop d'intérêt dans l'orthophonie. dans le sens où j'arrivais pas à trouver ma place, où je me disais, mais la norme des orthophonistes actuellement, ça correspond pas à ce que je suis moi, où je me place dans tout ça, comment en tant que me percevoir en tant que futur professionnel. J'avais vraiment du mal à visualiser tout ça. Donc voilà, je voulais un peu partir sur un sujet qui permettrait d'aborder ces questionnements-là que j'avais pour mon mémoire. Ce que je disais tout à l'heure, je suis tombée en fait par hasard sur une petite annonce d'Élie qui partageait son travail.
Super.
Et oui, ça a été comme un petit miracle qui est arrivé pour moi. Où vraiment, je me posais la question depuis des mois et d'un seul coup, Élie a répondu à toutes les questions que je me posais, quoi.
Et du coup, l'orthophonie paraissait une perspective possible à nouveau, en fait, pour toi.
Exactement,
Génial.
exactement. Et même avant de paraître quelque chose de possible pour moi, j'avais moyen de contourner ça, de contourner ce peu d'intérêt que j'avais à ce moment-là, en allant me raccrocher à quelque chose d'autre qui restait en lien en orthophonie. Et après, maintenant, avec les quelques mois qui sont passés, l'orthophonie est revenue bien s'imbriquer, et donc j'y retrouve beaucoup d'intérêt.
Génial. Est-ce que tu crois que c'est parce que t'arrivais un petit peu mieux à trouver ta place que du coup c'était plus simple pour toi d'accueillir à nouveau l'orthophonie ou c'était autre chose?
Oui, en fait, c'est ça, c'est que en travaillant avec Ellie, j'ai compris que je pouvais être tout à fait moi-même et être d'avoir un espace en tant qu'orthophoniste dans lequel je me retrouve, qui corresponde à ma personnalité, qui corresponde à mon vécu, et que je pourrais être un autre orthophoniste différent que des orthophonistes que j'avais pu rencontrer jusqu'ici, et que ça n'empêchait pas que je sois un bon orthophoniste, et d'autant plus que la pratique que j'aurai rentrera plus avec la vision que j'ai de l'orthophonie.
Ouais, en plus. Ok. Et donc, du coup, tu as contacté Ellie directement, le laboratoire où tu travaillais, Ellie. Et comment vous avez décidé de vous mettre d'accord pour travailler là-dessus?
Mais alors, si je peux. Parole. En fait, j'ai du coup envoyé un message à Ellie en lui disant que son sujet m'intéressait beaucoup, que j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce qu'elle faisait. Et donc, on a eu une rencontre en visio quelques semaines après, je crois. Et donc, Ellie a parlé de son projet que je trouvais vraiment intéressant, qui était à Ellie enfin, souhaitait créer son sondage pour explorer la compétence interculturelle des orthophonistes du Canada francophone. Et donc, Élie m'a introduit l'idée que ce serait intéressant de pouvoir faire pareil en France.
Génial.
Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
Ok, super. Et donc, quand tu as présenté, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça à Nantes, mais nous, je sais qu'il fallait qu'on présente notre sujet de mémoire. Enfin, il y avait diverses réunions, etc. là-dessus. Je vois que ça vous fait sourire. Du coup, comment ça s'est passé quand tu as présenté ton sujet de mémoire à l'école?
A été compliqué.
Ah ouais, d'accord. Même si du coup tu étais en lien avec un laboratoire de recherche.
Oui, en fait, c'est pas tant le sujet, enfin, si c'était le sujet en lui-même, mais nous à Nantes, on doit rendre en fin de quatrième année ce qu'ils appellent une annexe qui présente voilà, notre projet de mémoire. Et donc, quand j'ai rendu cette présentation, les premiers retours qui m'ont été faits ont été plutôt négatif, ou je ne sais pas comment le dire de manière correcte, mais je pense que on cherchait un peu à questionner l'intérêt du sujet.
D'accord. Plus
Ouais.
que du coup ta méthodologie, etc. Enfin, je sais pas si tu devais déjà présenter ça dans ton annexe. Moi, je sais pas. Enfin, je
Ouais.
connaissais pas l'annexe, mais
Oui, bah justement, en fait, on m'a questionné sur la méthodologie qu'on allait employer, sur la validité scientifique de ce qu'on faisait, mais de manière vraiment très très précise et un peu plus que ce qu'on était capable, entre guillemets, de fournir quand on est en quatrième année d'études d'orthophonie.
D'accord. Et peut-être comparé à tes camarades de promo, tu as pu voir que ce n'était pas les mêmes questionnements qui leur étaient remontés, peut-être?
Oui,
D'accord.
c'était pas les mêmes questionnements. Alors après, ça s'est quand même très très bien fini, hein, parce que
Ouais.
j'ai pu faire un retour, rendre une nouvelle fois un nouvel écrit, et qui a été vraiment très très bien accueilli, très bien
D'accord.
reçu, et où justement, finalement, maintenant, on m'encourage
Ah.
dans le sujet qu'on est en train de mener. Donc
Ah, mais
ça,
super.
ça s'est fini de manière très très positive.
Génial. Bon, bah, c'est chouette que tu sois aussi soutenue et qu'on t'encourage à poursuivre, parce que c'est quand même un travail de longue haleine, le mémoire. Donc,
Oui.
c'est bien de sentir, ouais, que ça va dans ton sens aussi.
Oui, ça fait du bien.
Super. Donc, ouais, du coup, je vous encourage encore une fois à aller remplir le questionnaire. Je crois que je l'avais déjà rempli, mais je vais vérifier tout de suite après l'enregistrement pour être bien sûre. J'aurais voulu du coup qu'on parle un petit peu plus de, eh ben, après, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer après ce questionnaire? Et peut-être qu'on pouvait commencer, alors je ne sais pas si ça vous paraît pertinent, c'est à vous de me dire. Moi, je me demandais peut-être ce que vous aviez pu observer chez les professionnels de santé en général, de, entre guillemets, j'aime pas trop ces termes, mais positif et négatif, ou peut-être, comment dire, un accueil adapté ou peut-être mal adapté sur les personnes LGBTQIA+.
Alors, on a trouvé que c'était une question qui n'était pas évidente,
Ouais.
parce que effectivement, ça peut être un peu difficile de noter ce qui est positif ou de négatif dans un accueil. Mais je crois que de manière générale, par rapport aux professionnels de santé, j'aurais tendance à dire que le vrai problème, c'est que les professionnels de santé, et comme la plupart de la population, général considère que la norme est hétérosexuelle et cisgenre. Ce qui fait que, du coup, les professionnels de santé, ils vont pas avoir tendance à poser des questions adaptées aux
Ouais.
patients et surtout vont pas avoir connaissance des enjeux qui sont spécifiques aux personnes de sexe LGBTQIA+. Et pourtant, il y en a des enjeux. Et par exemple, voilà, sur la connaissance des parcours des personnes trans, où là, les pros de santé ont généralement peu de connaissances et donc des difficultés à orienter correctement leurs patients et patientes qui sont concernés par la question.
Oui.
Et de même que sur les enjeux liés à la diversité sexuelle, enfin, les questions sur l'orientation sexuelle ne sont pas forcément posées. La plupart du temps, il y a des professionnels de santé qui vont avoir tendance à dire que ça relève de l'ordre du privé et que c'est des questions qui n'ont pas forcément à être posées quand on est enfin, d'un point de vue de la santé. Alors qu'en fait, si, ça a un intérêt fondamental, ne serait-ce que pour la prévention à la santé sexuelle, il y a un enjeu là-dedans où justement les personnes dont les orientations sexuelles sont pas hétérosexuels ont besoin d'avoir de la prévention sur la santé parce que les enjeux peuvent être différents, parce que avoir aussi tendance à moins leur faire de prévention alors que c'est tout aussi important. Il y a aussi l'exemple, par exemple, de la prévention pour le cancer du col de l'utérus. Et là, ça concerne les personnes trans comme les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Où on va avoir tendance à moins les orienter vers un dépistage parce qu'on n'a pas connaissance du fait que ça les concerne en fait.
Et ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça aussi. Je pensais pas que, bah, du coup, ces personnes n'avaient pas accès à ces préventions. J'avais pas du tout pensé, effectivement.
Bah, c'est-à-dire que en soi elles y ont accès,
Oui.
mais les pros de santé vont moins avoir tendance à les orienter vers ces dispositifs-là.
D'accord. Ah oui, c'est vrai que oui, ça semble logique quand on t'entend, mais c'est vrai que on n'est malheureusement pas habitué à y penser. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on puisse faire cet épisode, justement pour nous apprendre plein de choses, parce que c'est essentiel et surtout nous amener à nous faire des recherches aussi. C'est important de se renseigner aussi de son côté.
C'est très
Ok.
intéressant.
Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Donc là, tu parlais peut-être de la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore?
Oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, je peux parler un peu des choses plus générales sur l'accueil en tant que tel quand on reçoit des patients-patientes, où on a des termes, mais c'est valable pour les professionnels de santé comme dans toutes les situations de la vie. Où on a des termes qui sont très genrés, par exemple bonjour madame, bonjour monsieur, enfin ce genre de choses qui peuvent être vraiment une barrière pour les personnes, par exemple, qui ressentiraient de la dysphorie de genre, d'avoir ces formules genrées qui leur sont adressées et qui correspondent pas à leur identité de genre.
Oui. Est-ce que, pardon, je te coupe juste pour peut-être les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais expliquer dysphorie de genre et identité de genre?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important de définir les termes. Alors, l'identité de genre, comment expliquer? Peut-être, Élie, tu as une explication qui serait bien spécifique.
Je peux tenter une explication, mais je suis pas sûre que ce soit nécessairement plus spécifique que celle que tu aurais. Mais dans le fond, il y a plusieurs concepts qu'on entend souvent comme identité de genre, expression de genre. Il y a modalité de genre aussi qui est de plus en plus utilisée. Donc, l'identité de genre, c'est la façon dont une personne s'identifie. Donc, sa perception d'elle-même profonde de qui elle est, qu'elle soit une femme, un homme, une personne non binaire, une personne agenre, une personne bigenre, une personne demi-genre. Donc, il y a toutes sortes de façons de ressentir son genre. La modalité de genre, c'est ça, de plus en plus utilisée, c'est plus au niveau de est-ce que mon genre correspond à celui qui m'a été assigné à la naissance. Donc, si oui, alors je suis une personne cisgenre. Sinon, ça se peut que je m'identifie comme une personne transgenre. Puis il y a toutes les questions d'expression de genre, donc la façon dont je m'habille, je me comporte, comment ma voix sonne. Tout ça où ça, je peux sonner de façon plus féminine, masculine, androgyne. Je peux être conforme dans mon genre par rapport aux attentes qui sont attendues ou super créatif aussi dans la façon dont je m'exprime. Donc, c'est ça, ça fait référence à ces notions-là. Puis, y avait-tu un autre terme à définir?
La dysphorie de genre.
Ah oui. Donc, ça, ce serait justement un sentiment. C'est comme la douleur et les sentiments désagréables qu'on peut ressentir quand. Justement, on sent qu'il y a une certaine incohérence entre la personne, la façon dont nous on se perçoit et la façon dont les autres nous perçoivent. C'est sur le plan du genre, c'est peut-être comme ça que je me l'expliquerais. Est-ce que Elias, tu es d'accord avec cette définition?
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a vraiment ce rapport au sentiment désagréable qu'on peut ressentir et la souffrance que ça peut engendrer quand on ressent des choses qui ne sont pas en accord avec notre identité de genre.
Et donc, merci pour ces précisions. Comme ça peut être plus clair si jamais c'est la première fois que certaines personnes écoutent ces termes. Et donc, Elios, je raccroche les wagons. Tu disais que parfois l'accueil qui pouvait être fait, donc par exemple avec des bonjour madame, bonjour monsieur, etc., ça pouvait être difficile pour des personnes qui étaient en train de vivre une dysphorie de genre.
Oui, tout à fait. Dès l'entrée dans le cabinet, ça va vraiment avoir un impact et du coup, les personnes vont ressentir potentiellement de la dysphorie de genre ou alors, enfin, dans tous les cas, être dans une position d'insécurité face aux professionnels qu'elles ont en face d'eux. J'ai perdu mon attention au moment où on parlait.
Pas de soucis, t'en fais pas. Est-ce que tu voulais compléter sur le fait que justement la personne pouvait ne pas se sentir forcément sécuritaire face à son interlocuteur, du coup, dans ces conditions?
Oui, c'était ça. C'est que du coup, en fait, quand on se sent en insécurité face à un professionnel de santé, ça veut dire qu'il y a une alliance thérapeutique qui va ne pas, enfin, qui va mal se faire. Et donc, on peut avoir tendance à omettre des informations
Oui.
qui vont être importantes du point de vue de notre santé. On va pas transmettre tout ce qu'on aurait transmis en temps normal. On va aussi peut-être accorder moins de valeur à ce que ce que professionnel nous donne comme information. Et en plus de ça, on va aussi avoir tendance à aller moins souvent consulter des professionnels de santé,
Oui.
vu que ça nous met en insécurité.
Oui, et du coup, y aller peut-être à des moments où en fait on n'a pas le choix et ça peut peut-être retarder, retarder des prises en charge qui auraient pu, enfin, qui deviennent un peu plus graves alors que ça aurait pu être traité plus tôt, par exemple.
Exactement, c'est exactement ça.
D'accord, ok.
Mais si je peux rajouter des choses un peu plus positives
Ouais, carrément.
actuellement, parce que je trouve que c'est aussi important de parler de positif. Comme justement, il y a une méconnaissance de la part des professionnels de santé, les associations et la communauté en général, 2SLGBTQIA+, elle a pris aussi ce rôle en main de se charger de. Enfin, on a pris ce rôle en main de se charger de notre santé, de notre bonne santé. Et donc, la plupart du temps, on devient un peu des professionnels, des experts de notre propre santé. Et aussi, il y a beaucoup d'entraides communautaires qui se font. Par exemple, il y a des réseaux qui sont mis en place où on peut se transmettre des informations, des noms de médecins, d'orthophonistes, de psychologues qui seraient queer-friendly, qui seraient safe, vers lesquels on peut se diriger en étant un peu plus en sécurité. Donc ça, je
Génial.
trouve que c'est des choses vraiment très positives.
Ouais, c'est hyper riche d'avoir pu construire ça et surtout que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'alimente en plus assez régulièrement parce que bah, tout le monde y participe finalement, non?
Oui. C'est tout le monde y participe. Et il y a aussi, voilà, cette chose qui fait que ça se. Parce que dès qu'une personne a été consultée, un nouveau professionnel va pouvoir l'ajouter dans cette liste. Ça fait aussi que les professionnels entendent parler de ces listes et du coup se questionnent d'eux-mêmes sur leur pratique et peuvent alors aller se former, aller se questionner sur ces enjeux-là.
Ouais.
Il y a aussi des personnes 2SLGBTQIA+ qui vont parfois aller voir des professionnels de santé qui ne sont pas référés dans ces ressources-là et qui du coup vont semer des petites graines face à ces professionnels-là. Et ça fait que ça crée un réseau qui est de plus en plus grand. Et peut-être dans un idéal, dans un futur proche, je ne sais pas, on aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels qui pourront accueillir les personnes 2SLGBTQIA+ comme il se doit.
Ça serait génial. Mais est-ce que vous
Complètement.
avez l'impression, de votre point de vue, que les choses évoluent tant, au Québec qu'en France?
Ouais, je pense que je pourrais dire que effectivement, je remarque une certaine évolution des choses. C'est ça, il y a comme une ouverture présentement. Tu sais, quand on présente nos projets de recherche, je trouve ça quand même enthousiasmant. J'ai l'impression que les gens veulent bien faire, veulent apprendre, veulent s'améliorer. Donc, ça, je le remarque vraiment. Puis, mon point de vue, disons, très personnel, j'ai jamais consulté en orthophonie, mais j'ai consulté d'autres professionnels de la santé. Puis, je vois quand même une différence entre il y a de cela, disons, 5 ans et aujourd'hui où il y a plus d'ouverture et voilà, on m'accueille de mieux en mieux, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Ok, c'est génial, c'est encourageant en tout cas. On voit que ça va dans la bonne direction.
Oui.
Tu as remarqué ça aussi en France, Elieuse?
Alors oui, mais je pense que ça prend un peu plus de temps en France. C'est plus compliqué, notamment parce que les politiques ne suivent pas, les mesures politiques actuelles ne suivent pas du tout, et qu'on a un regard qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, peut-être un peu. On n'est pas encore déjà dans accepter l'existence parfois des personnes de LGBTQIA+. Donc ça fait qu'on a un peu du retard sur cette question-là parce que on ne peut pas dire qu'on va accueillir de manière sécuritaire ces personnes-là, quand bien même on peut remettre leur existence en question.
Et, ouais. Et tu trouves qu'il y a encore beaucoup cette notion de, enfin de, ouais, de nier l'existence de ces personnes-là. Est-ce que tu as vu ça dans ton expérience personnelle, dans les recherches, la littérature, comme tu es sur le sujet?
Oui, peut-être d'un point de vue déjà d'expérience personnelle, c'est pas qu'on nie nos existences, mais on peut avoir tendance à avoir un jugement sur ces existences.
Oui. D'accord.
C'est surtout cette question-là. Et du coup, ça peut créer des situations complexes. Et après, dans la littérature, je pense ça progresse parce que l'avantage de la recherche, c'est qu'elle s'appuie vraiment sur des données scientifiques. Et donc, ça, c'est plutôt très positif. Donc, ça apporte des évolutions. En revanche, du point de vue plutôt de la société en général, là, je pense qu'on est encore sur quelque chose de très loin et d'assez compliqué avec aussi le fait qu'on parle, enfin qu'on soit de plus en plus présent médiatiquement et dans, enfin sur les réseaux sociaux par exemple, ce genre de choses, crée forcément aussi beaucoup beaucoup plus de retours négatifs par rapport à ça. De discrimination aussi et de harcèlement, notamment des personnalités concernées qui se battent et qui militent pour ces enjeux-là.
Ouais. Ouais, c'est clair que ça doit être hyper difficile de prendre la parole sur ces sujets-là, ou peut-être même pas forcément de prendre la parole, mais juste d'exister. et de juste recevoir ces remarques, ces jugements, ça doit être très difficile à vivre, j'imagine.
C'est pas facile tous les jours.
Est-ce que vous avez une idée de comment nous, professionnels de santé, on pourrait mieux se former, mieux s'informer sur certains supports? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus, des idées, ou est-ce que ça sera la suite du mémoire?
C'est certainement la suite du projet, donc il va falloir être réinvité dans quelques mois, quelques années pour qu'on puisse diffuser les ressources qu'on va créer. J'imagine qu'on peut proposer des actions quand même générales, des choses que les professionnels pourraient changer dans leur pratique. Oui, d'ailleurs, si vous répondez au sondage, au sein même du sondage, il y a comme certaines actions qui sont proposées et sur lesquelles on veut entendre la communauté orthophonique. Est-ce que ce sont des actions que vous posez? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de les poser ou pas? C'est le cas, par exemple, d'indiquer ses pronoms, par exemple, dans sa signature de courriel. Bien sûr, seulement si on est à l'aise de le faire, parce qu'il y a des personnes, par exemple, en questionnement pour qui ça peut être difficile. On ne veut pas obliger personne à indiquer ses pronoms, mais si vous êtes une personne... C'est ça, allier des communautés de LGBTQIA+, ça peut être vraiment aidant parce que quand on voit que vous indiquez vos pronoms, par exemple, nous, comme message, ce qu'on reçoit, c'est « Ah, OK, cette personne est comme consciente qu'il y a des personnes trans comme moi qui existent, donc va peut-être m'accueillir avec plus de sensibilité. » L'écriture inclusive aussi, comme inclusive des personnes de LGBTQIA+. Ça aussi, ça peut être fonctionner un petit peu de la même façon, être comme un signe d'ouverture où on se dit okay, que la personne va bien m'accueillir. Le matériel qu'on utilise, plus le matériel est diversifié, montre des personnes, toutes sortes de familles, toutes sortes d'identités de genre, mieux on se sent. Puis s'il n'y a pas de matériel dans votre milieu, ben une action qu'on peut faire, c'est justement d'en promouvoir l'achat autant que possible. Donc ça, c'est des premières petites pistes d'action. Elias, est-ce que tu as d'autres idées pour compléter la liste?
Je peux parler de matériel après un peu concret, mais qui sont pas forcément qu'à destination des orthophonistes. J'avais été un peu regardée quand même en avance. Il y a le site Transidenticlick en France qui est en fait une boîte numérique à destination des professionnels de santé pour aider à l'accueil et à l'accompagnement des personnes trans.
Ah, c'est
Et donc,
super ça.
c'est une très bonne ressource. Alors, pour les orthophonistes, il n'y a pas besoin d'aller explorer tout le site, mais ça permet quand même d'avoir des bonnes bases, ne serait-ce que ce que tu disais, Ellie, sur les pronoms, sur le respect de l'identité de genre, tout ça. Donc c'est vraiment un site qui est très bien fait. Et j'aurais tendance aussi à conseiller les orthophonistes, si elles se questionnent ou qu'elles veulent essayer de savoir un peu comment adapter leur pratique, ce genre de choses, de se diriger vers des associations locales de leur ville, de leur région, où parfois ces assos peuvent être en contact avec des organismes de formation, ou même les assos elles-mêmes proposent des formations de sensibilisation à l'accueil des personnes des SLGBTQIA+. Donc ça peut être des choses très intéressantes et semer au moins des petites graines pour ensuite aller explorer plus loin quand on aura fini notre sondage et qu'on aura pu créer des nouvelles ressources adaptées à l'orthophonie.
Génial. Bon, en tout cas, je mettrai. C'est Transidenticlick, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, je le mettrai aussi dans la description du podcast. Et voilà, si vous avez d'autres ressources à me communiquer, n'hésitez pas. Élie, tu voulais dire quelque chose?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais je peux, parce que moi aussi, j'avais fait mes devoirs de trouver quelques ressources qui viennent plus du côté du Canada
Ah.
francophone.
Ouais.
Parce qu'il y a des ressources qui existent en anglais, en orthophonie. Donc, on pourrait mettre aussi le lien de ça, mais en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des ressources plus générales pour les professionnels de la santé. Mais entre autre, à l'Université de Montréal, on a un MOOC, donc une formation ouverte gratuite. Donc, vous pouvez participer en France aussi, là, il n'y a pas besoin d'être au Canada pour participer, mais qui est la formation transidentité. Puis, il y a comme deux formations. Donc, il y en a une qui est comme plus générale, puis une qui est pour les professionnels justement de la santé, donc sur comment adapter sa prise en charge. Donc, ça pourrait être certainement intéressant. Après
Carrément.
ça, c'est ça, si on veut se familiariser avec, par exemple, la terminologie. Il y a le livre Des mots pour exister au Québec qui est sorti récemment puis qui a été publié par la Coalition des familles LGBT+. Donc, qui est super intéressant, qui est vraiment beau aussi et très complet. Je pense il y a aussi plusieurs guides sur l'écriture inclusive. On va pouvoir mettre nos préférés,
Génial.
les liens de nos préférés. Puis, parce que dans notre sondage aussi, on essaie de pas juste se centrer, tu sais, sur l'individu, qu'est-ce que comme individu on peut changer, mais aussi aller voir qu'est-ce que les milieux en tant que tels, puis les institutions peuvent changer. Donc, si jamais vous voulez vous questionner sur est-ce que mon milieu est inclusif ou pas, il y a l'outil autodiagnostic de l'organisme Gris et Stris qui est intéressant, où on peut justement aller mesurer le niveau d'inclusion des milieux qu'on fréquente. Donc, voilà, c'était les ressources que j'avais identifiées de mon côté.
Ok, super intéressant. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir en description parce qu'on remettra tout ça.
Et
Est-ce qu'il y
si je
avait...
peux me
Oui, vas-y,
permettre, en fait, je viens de me souvenir de deux comptes Instagram qui sont vraiment très bien sur la, enfin, qui c'est tenu, c'est des comptes Instagram qui sont tenus par des orthophonistes. Il y a Inclus-moi, qui est une étudiante, je crois, encore pas encore orthophoniste, qui vraiment parle de comment avoir une pratique inclusive, mais sur différentes questions qui ça ne concerne pas que la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Elle questionne les matériels, les films, les livres et elle en conseille. Donc vraiment c'est un compte Instagram qui est très bien. Et il y a aussi le compte de Mathieu Meurier, Transphonie, qui lui parle plutôt du travail vocal avec les personnes trans. Donc vraiment ce sont deux comptes qui sont accessibles. Très utile et vraiment chouette à aller découvrir.
Ouais, c'est des super ressources. Et il y a aussi le compte Instagram de Maëlle qui était déjà venue sur l'épisode du podcast. Et donc, le compte Instagram, c'est Morphem. Hop. Donc, ouais, voilà, c'est des ressources, du coup, qui sont super intéressantes et qui, je pense, pour certaines orthophonistes, ont été une porte d'entrée, justement, pour s'y intéresser un peu plus parce que, on scrolle sur Instagram. Et du coup, de tomber là-dessus aussi, ça permet de faire une porte d'entrée. Parce que c'est vrai que, par exemple, les MOOC, etc., on n'y arrive pas directement dessus par hasard, quoi. Donc,
Oui, mais non, c'est vrai que Instagram, pour ça, c'est vraiment un super outil pour aller se questionner sur toutes ces questions-là.
Ouais, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que ça a aidé à développer un petit peu plus l'écriture inclusive aussi.
Oui, c'est vrai.
Parce que bon, sur Facebook, je ne sais pas quel est votre Facebook, mais moi, je n'avais pas du tout les mêmes retours sur l'écriture inclusive. Et du coup, sur Instagram, ça a aidé à comprendre un petit peu mieux en quoi c'était intéressant de l'utiliser, comment l'utiliser. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pareil pour l'utilisation des pronoms, finalement, où maintenant sur Instagram, on va préciser ses pronoms. Donc, ça incite aussi à le faire.
Oui, complètement. C'est vrai que pour ces aspects, c'est vraiment chouette, je trouve. du coup, on va arriver vers la dernière question du podcast. Donc, avant cette dernière question, je rappelle qu'il y a un questionnaire à remplir et que quand vous aurez avancé aussi dans ce travail, je pourrai mettre le lien vers les ressources, où on pourra retrouver les ressources, quelle que soit leur forme. Mais du coup, ça sera super intéressant. Donc, j'ai hâte. Et on arrive donc du coup vraiment à la dernière question du podcast. Vous qui avez la parole aujourd'hui, quel message aimeriez vous faire passer aux auditeurs et aux auditrices? Élie, est-ce que tu veux commencer?
Je laisserai Elios commencer parce que je sais que nos réponses se complètent.
Parfait. Alors, Elios, c'est à toi.
Alors, je pense qu'on ne l'a pas assez dit pendant ce podcast. Allez remplir notre sondage. Très important. Parce que ça va vraiment nous aider à cerner les besoins des orthophonistes et donc pouvoir à terme fournir du contenu qui répondra vraiment spécifiquement aux besoins des orthophonistes. Donc ça, c'est très, très important. Et donc sinon, le message que j'aimerais faire passer, c'est que on peut avoir tendance à se dire que nous, dans notre patientèle, on n'a jamais rencontré de personnes concernées par ces enjeux-là et que du coup, on n'aurait pas forcément besoin d'aller se questionner ou de questionner notre pratique. Sauf qu'en fait, l'appartenance à la communauté 2SLGBTQIA+, c'est pas quelque chose qui est visible directement en soi. Et du coup, ça veut dire que oui, peut-être, vous avez l'impression de ne jamais avoir rencontré de personnes concernées dans votre patientèle, alors qu'en fait, il y en avait sûrement des patients qui étaient concernés, mais que l'espace de parole n'a pas été accueillant pour ça. Et c'est 100% OK, mais que du coup, ça peut être important de se questionner sur pourquoi ça n'est jamais arrivé et d'essayer de tenter d'offrir un espace qui puisse être le plus accueillant possible pour offrir un espace de parole qui soit le plus ouvert possible. D'autant plus qu'on est un métier de la parole et du langage. On est un métier où on fait intervenir l'intime, le vécu personnel de nos patients. Donc c'est très très important que pour notre accompagnement, on puisse prendre en compte tous les aspects de la vie de nos patients et patientes.
Super, merci beaucoup, Elieuse.
Et je peux renchérir justement de mon côté. Je me rends compte, en t'écoutant parler, Elieuse, que j'ai comme deux choses à dire. J'ai deux messages à transmettre.
La première, c'est que remplissez le questionnaire.
Oui, OK. Donc, j'ai trois messages à transmettre dans celle-là. Oui. Premier message, on remplit le questionnaire. Deuxième message, j'ai envie de comme renforcer le fait que c'est comme notre responsabilité comme orthophoniste de faire quelque chose, comme professionnel de la santé, de faire quelque chose. Elias a parlé tantôt un petit peu du fait que vu qu'on anticipe des réactions des mauvaises réactions. Si on va consulter des professionnels de la santé, ça se peut qu'on retarde le moment d'aller chercher des soins, qu'on s'abstienne d'aller en chercher, qu'on garde sous silence des informations importantes. Ça peut arriver en orthophonie, par exemple, qu'on ne divulgue pas notre partenaire de communication, alors que c'est tellement central à la thérapie de savoir avec qui la personne communique parce qu'on a peur de divulguer notre orientation sexuelle, par exemple. Il y a une méconnaissance des besoins. Donc, tout ça, ce sont comme des barrières d'accès aux soins de santé qui font qu'on a des besoins non comblés. Puis en plus, si on se rend dans les bureaux puis qu'on vit des expériences désagréables, ben, ça peut rajouter du stress. T'sais, on parle de stress minoritaire aussi. Donc, tout ça, ça vient conduire à des inéquités de santé. Puis, des inéquités de santé, ça découle d'une longue histoire à laquelle nos professions ont contribué, à laquelle les professions de la santé ont contribué, justement en stigmatisant les identités, les expériences, les réalités de LGBTQIA+. Avant, c'était comme pathologisé, justement. Là, on s'en vient de mieux en mieux. On va dans la bonne direction, mais qu'on a vraiment une responsabilité de réparer les erreurs que nos professions ont faites et d'aller de plus en plus vers l'inclusivité. Donc, ça, c'est mon premier message. On a une responsabilité, d'après moi, très forte par rapport à ça. Puis, mon deuxième message, comment faire? Bon, pour moi, on dirait que je miserais avant tout sur une pratique qui est réflexive. Donc, j'inviterais comme les gens à se questionner, justement, par exemple, cette semaine, regardez ce que vous faites dans votre pratique, puis essayez de voir est-ce qu'il y a des liens avec la sexualité, avec le genre, pour essayer de prendre conscience de nos biais, de nos croyances, parce que souvent, on veut bien faire, mais il y a toutes sortes de choses qui sont inconscientes, automatiques, juste du fait qu'on ait grandi dans une culture qui présente l'hétérosexualité puis le fait d'être cisgenre comme la norme. Donc, c'est ça. Ma réponse est un peu longue, mais tu sais, je me rends compte justement que quand je parle du projet de recherche, souvent les gens ont comme envie d'avoir des ressources ou des recettes toutes faites pour être adéquats dans toutes les situations possibles, mais il va toujours avoir comme la situation qu'on n'avait pas prévue, qu'on sait pas trop, qu'on n'est pas sûr d'avoir bien géré. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment de miser sur genre une dose saine d'introspection, puis aussi sur l'écoute des réalités qui sont différentes des nôtres. Ce serait mon message de la fin.
Super. Et ben franchement, en tout cas, merci à vous deux pour cet épisode. Je suis super contente qu'on ait pu le faire, qu'on ait pu mettre en lumière ce sujet qui est important. Et voilà, un grand merci. Parce qu'on merci a réussi à trouver un créneau malgré le décalage horaire en plus.
Exactement. Merci à toi. C'était vraiment chouette de parler avec toi aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt alors et encore merci.
À bientôt et merci de nous avoir donné la parole sur ce sujet.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux orthophonistes.